Bonne école du dimanche, bonne garderie à tous les enfants. Et bonjour à tous, du coup. Alors, je suis vraiment content d'être ici devant vous. Je répète à chaque fois que quand je suis devant vous, je suis vraiment toujours content. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager un temps avec vous. Bah, d'être avec vous aussi dans l'Assemblée, bien sûr, mais d'être devant vous aussi, c'est toujours un honneur pour moi et une joie. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'être ici à l'église. Ça aussi, ça fait plaisir de voir des gens qu'on ne voit pas souvent. Et j'espère que du coup, les mots qui m'ont été inspirés vont vous inspirer aussi tout autant qu'ils l'ont été pour moi. Et vraiment, je remercie, je loue le Seigneur de ce que, à cette occasion aussi de la présentation d'Edouard, on ait pu assembler aussi du monde ici dans l'église. Ça fait plaisir de voir les bancs et les chaises qui se remplissent et que le Seigneur puisse remplir son église du coup. Alors, je vous propose de prier et puis après, on commencera dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ouais, Seigneur Jésus, c'est une joie de pouvoir être ici ce matin, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour les frères et sœurs. Merci pour ce privilège d'être devant eux aussi, Seigneur Jésus. Merci de pouvoir voir leur visage, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as mis quelque chose sur mon cœur ce matin. Et je prie que ce que mes paroles vont partager, Seigneur, ça vient de toi. Ça vient pas de moi, de l'humain, Seigneur, de l'homme. Même si j'y ai ajouté quelque chose sûrement. Mais Seigneur, vraiment que ce soit ta parole qui soit reçue ce matin. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des musicophiles dans la salle ? Musicophiles, c'est des gens qui aiment la musique. Ouais ? D'accord. Eh ben, moi, je suis pas trop musicophile. Je vous cache pas que j'écoute pas beaucoup de musique. Mais de temps en temps, il y a une musique qui, je sais pas, j'apprécie particulièrement et puis je la mets en boucle. Et en ce moment, j'écoute beaucoup une musique d'Escalier, un groupe qui s'appelle Escalier, qui s'appelle Inébranlable, la musique. J'aurai peut-être l'occasion de vous la faire écouter tout à l'heure, mais elle est un peu R&B, etc. Donc voilà, j'ai peur que vous dansiez, etc. Donc autant le rythme justement que les paroles, vraiment, elles m'encouragent, elles m'entraînent, et il exprime quelque chose qui est sur mon cœur. Et donc clairement, cette musique a inspiré aussi ce que je vais vous partager ici ce matin. Alors j'avais commencé à partager une première fois ce message aux jeunes, qu'on a au groupe de jeunes. Et donc j'avais commencé avec le verset de 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous le lis. Donc 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petit enfant, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Alors, selon un commentaire que j'ai pu lire sur Internet, l'apôtre Paul ici, au travers de petits enfants, de pères et de jeunes gens, il fait référence aux différents stades de la vie que l'homme peut passer et en fait à leur degré de maturité spirituelle. Alors ce matin, moi ce passage, il me montre aussi que la parole de Dieu, en fait, elle est faite pour tous, peu importe l'âge. Petits et grands, hommes, femmes, enfants, nous sommes tous concernés par la parole de Dieu et elle nous parle à chacun. La Bible dit... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, dans Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, par une musique, tantôt d'une autre, par la parole, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'y prend pas garde. Et j'espère qu'aujourd'hui, ce matin, les paroles que vous allez entendre, vous allez y prendre garde, et qu'elles vont être entendues et comprises comme il se doit. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés parce que vous connaissez le Père. La parole de Dieu nous encourage à plusieurs reprises à devenir comme les petits-enfants. En effet, les enfants prennent les choses avec simplicité. Ils sont honnêtes, vrais dans leur manière de vivre et ils font facilement confiance. En quelque sorte, ils font preuve de naïveté. Mais le mot naïveté pourrait être pris de deux manières, soit péjoratif, soit positive. Et ici, elle est plutôt dans le sens positif, dans le sens où ces enfants, ils sont simples, vrais, et ils sont naturellement emprunts à faire confiance, et ils font preuve de sincérité. Les enfants, ils font preuve de sincérité et de confiance en leurs parents parce que c'est leur repère. On peut leur dire des choses, etc. Bien sûr, sauf quand ils désobéissent. Hein. Mais sinon, ils vont nous faire confiance. On va être leur repère et ils vont venir à nous quand ils vont se blesser, quand ils vont tomber, etc. Parce qu'ils nous font confiance. On est quelqu'un de sûr pour eux. Eh bien, Dieu est un repère. C'est quelqu'un de sûr, surtout dans le désordre que l'on peut actuellement constater dans le monde. Dieu ne change pas. Père maintenant, mère, vous connaissez celui qui est dès le commencement. À l'âge adulte s'attache le savoir, la connaissance, le discernement. En grandissant, la vie, elle nous a instruits. Les expériences, elles nous ont fait grandir. Elles nous ont fait grandir en maturité. Et maintenant, on devient nous-mêmes les conseillers de nos enfants ou de ceux que Dieu nous a confiés. Et ça, c'est une grande responsabilité. Jeunes gens maintenant, et c'est là que j'avais partagé au groupe de jeunes, vous êtes forts et vous avez vaincu le mauvais. La jeunesse, elle est pleine de fougue et elle est pleine d'assurance. Les jeunes gens ont la force et la détermination. J'avais donné cette image des bougies. Si je vous montre deux bougies, une grande qui se consume et une petite qui se consume, laquelle représente l'enfant ? La petite ou la grande ? La grande, parce que la grande se consume, la petite se consume, et la petite s'est déjà bien consumée, elle a déjà dépensé, elle a déjà utilisé une partie de sa vie, alors que l'enfant, le jeune, il lui reste encore plus de temps, et donc la bougie se consume petit à petit. Et donc, la grande bougie représente les enfants. Et donc, ils ont l'avantage d'avoir la vie devant eux. Ils ont de nombreuses aventures qui les attendent, et même si certaines représentent des défis, ils ont vraiment la chance d'entamer et de commencer leur vie. À eux de faire les bons choix et d'utiliser leur force que leur âge leur donne pour servir Dieu. Alors, chaque stade de la vie a sa spécificité et nous fait grandir et cheminer. Ma question ce matin, c'est où en êtes-vous ? Il est parfois difficile d'évaluer le degré de maturité d'une personne parce que ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend de chacun et de sa rapidité de croissance. On dit par exemple que les hommes mûrissent moins vite que les femmes. On dit. Est-ce que c'est vrai ? Dans mon cas, sûrement. Alors, spirituellement, avez-vous atteint le niveau de maturité correspondant à votre stade de vie ? Je vous laisse le soin d'y réfléchir et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, c'est sur la notion de force, de vulnérabilité, de capacité à affronter les événements que je voudrais m'attarder ce matin et en particulièrement sur un mot que nous allons découvrir ensemble. J'ai un petit peu peur parce que je vois Philippe qui commence à dire la tempête, tout ça. Je dis, mais il va faire ma prédication, c'est pas possible. Du coup, j'étais là genre, laisse-moi le temps. Donc, j'ai choisi 4 passages ce matin et on va commencer. Donc, Théo, tu peux envoyer le diapo. J'avais aussi à cœur, vraiment, ça me fait vraiment plaisir aussi. Je vois Théo dimanche après dimanche qui fait passer les musiques, tout ça, qui est là pour les diapos, etc. Et vraiment, ouais. Je voulais aussi remercier Théo parce que c'est vrai que les gens qui s'investissent comme ça, etc., ils sont un peu dans l'ombre. On les voit pas, vous êtes de loin, etc. Qu'est-ce qui passe les champs et tout ? Mais ça se fait pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est derrière à la régie et on remercie vraiment l'engagement de chacun. Merci Théo. Alors, mon premier passage, il se trouve dans Matthieu. De toute façon, tous les passages, là, les premiers passages que je vais vous lire sont dans Matthieu. Vous pouvez prendre vos bibles si vous les avez. Bah moi-même, j'ai oublié la mienne, donc Sephora, tu m'excuseras, j'ai emprunté celle-ci à la bibliothèque. Mais bon, s'il faut, je l'achèterai. Alors, Matthieu 8, versets 23 à 27. Jésus, on parle de Jésus, hein. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et la mer lui obéissent. » Alors, je vous ai mis une petite image pour illustrer, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, on voit justement l'illustration de ce passage où les disciples sont sur la mer et survient une grande tempête, si grande que les vagues submergent et rentrent même dans la barque. Et les disciples, vous imaginez, ils sont paniqués, alors que pendant ce temps-là, on voit le contraste, Jésus lui dort. Alors, les disciples, ce ne sont pas des hommes imprudents parce que la plupart d'entre eux étaient pêcheurs. Ils avaient le pied marin et donc vous vous doutez bien qu'ils ne se sont pas engagés sur le lac alors qu'il y avait des risques de tempête. Selon le commentaire de ma Bible, en fait, le lac de Galilée, il est constitué de tel qu'il est très profond et il est entouré par des grandes montagnes. Et il suffit que les vents viennent s'engouffrer entre les montagnes pour que des vagues se créent et on dit même que les vagues peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres. Donc vous imaginez, sûrement se sont retrouvés dans une tempête qui ne devait pas être une petite tempête, mais vraiment pour qu'ils soient paniqués, les disciples, alors qu'ils étaient marins, c'était vraiment une forte tempête. Et donc, ils sont surpris par la tempête. Et il y a un réel danger, et ils ont peur. Donc face à cette situation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réveillent Jésus et lui crient « Sauve-nous, nous allons mourir ». Bien que les disciples ont déjà assisté à plusieurs miracles et qu'ils savent ce dont Jésus est capable, cette tempête les plonge quand même dans la crainte et ils paniquent. Dans la vie de tout le monde, nous traversons des tempêtes, des orages. Et ces événements, ils n'étaient bien entendu pas prévus. Et donc, ils nous surprennent. On est surpris par ces événements. Et des fois, on est surpris à paniquer, à avoir peur. Alors qu'on connaît Jésus et ce qu'il est capable de faire. Donc survient alors la peur, la crainte, et il nous arrive de penser que Dieu ne peut ou ne veut pas intervenir dans cette situation. Pourtant, je suis certain que vous avez déjà vu Dieu à l'œuvre dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un. Les interventions divines, elles arrivent, et dans ces situations précises, par contre, on les oublie ou on ne les voit plus, elles s'échappent à nos yeux viennent se voiler, et donc survient la peur et la crainte. La peur, je dirais que c'est une attitude qui est normale. C'est normal de réagir face aux situations et des fois, c'est normal, c'est légitime d'avoir peur. Malgré tout, en fait, il ne faut pas se laisser dominer par la peur parce qu'elle nous paralyse, elle nous empêche d'avancer. Elle nous ôte la sérénité et la confiance en ce que nous croyons. Dans toute situation imprévue, ayons la même attitude que les disciples, allons réveiller Jésus. Philippe l'a dit, Jésus est dans notre barque. Il est avec nous et il va nous faire traverser de l'autre bord et il va nous faire traverser cette tempête. Et même s'il dort, eh bien allons le réveiller car il sera calmé la tempête. Jésus fait preuve vraiment de sérénité et il va répondre même des fois, on se demande, justement Philippe l'a dit aussi, mais on voit la réponse, mais pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ? Toi aujourd'hui, pourquoi es-tu si craintif face à ta situation ? Alors, voilà, rappelons-nous que Dieu est celui à qui même les éléments obéissent. Il est capable de calmer les tempêtes et nous fera traverser tous les orages. Dieu est un Dieu de victoire. Et par le nom de Jésus, nous aussi, nous avons la victoire. Amen. Le deuxième passage, c'est celui qui suit. C'est dans Matthieu 8, du verset 28 au 34. Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier : Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus : Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Allez-y, leur dit-il. Ils sortirent des deux hommes et entrèrent dans les porcs, Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Alors dans ce passage, on constate encore une fois le contraste entre l'attitude des hommes et celle de Jésus. Les hommes ont peur. Ces démoniaques, on dit, étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Jésus, lui, n'a pas peur. Il est serein. Et il prend le chemin que personne n'ose prendre. La Bible dit dans le psaume 60, verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Ici, les démons viennent à la rencontre de Jésus et ils le craignent. « Que nous veux-tu ? Es-tu venu nous tourmenter ?» Les démons suppliaient Jésus. Les rôles sont inversés. Alors que les démons tourmentaient ces deux hommes, ce sont eux maintenant qui sont tourmentés par Jésus. Ces démons étaient forts, mais face à Jésus, les démons perdent tout pouvoir. Le troupeau de porcs qui se jette de la falaise nous montre le pouvoir destructeur des démons. Mais Jésus, lui, a eu autorité sur eux, parce qu'il est plus fort que les démons. Et on peut être surpris de la réaction des habitants qui, malgré le miracle dont ils viennent d'être témoins, demandent à Jésus de partir. N'aurait-il pas dû être content pour ces deux hommes qu'ils ont été délivrés ? La puissance et l'autorité de Jésus, elles font peur. Et les habitants sont davantage préoccupés par la perte de leur troupeau que par la guérison de ces deux hommes. Qu'en est-il de nous ? Sommes-nous capables de voir l'œuvre de Dieu quand il agit ? Quelle est notre réaction quand nous voyons Dieu intervenir dans la vie de quelqu'un ou dans notre vie ? N'avons-nous pas des fois la même attitude quand nous refusons de voir que Dieu agit, qu'il a tout créé par exemple et qu'il nous aime, qu'il nous chérit, qu'il languit après nous ? Quand nous refusons de voir l'œuvre de Dieu en nous, ne sommes-nous pas comme ces hommes qui refusent de voir l'œuvre que Dieu a accomplie dans ces démoniaques ? Troisième passage, il se trouve dans Matthieu 14. Du verset 22 au 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi !» « N'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau !» Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Alors premièrement, je remarque le besoin de Jésus de se trouver à l'écart pour prier. Il oblige les disciples à monter dans la barque, il renvoie la foule et prend un temps pour être seul. Les temps de mise à l'écart dans nos vies sont primordiaux. Prenons le temps d'être avec Dieu et ces temps vont nous préparer à affronter les défis qui sont devant nous, à traverser les tempêtes. Alors, une fois fait cela, Jésus y rejoint les disciples en marchant sur l'eau. Et quand les disciples le voient arriver, forcément, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont affolés. Ils pensent que c'est un fantôme. Le texte nous dit d'ailleurs que la barque était déjà bien avancée. C'est pas, Par exemple, c'est pas genre Jésus, il était au bord de l'eau et puis il a marché dans l'eau et on a cru qu'il marchait sur l'eau. Non, il marchait sur l'eau. Et donc, dans leur frayeur même, on voit qu'ils le poussent des cris. Je vous laisse imaginer l'épouvante dans laquelle ils pouvaient être. S'ils ont poussé des cris quand on a peur, en général, on ne pousse pas des cris quand on a simplement peur d'une, d'une araignée ou quoi, par exemple. Mais vraiment, quand on est épouvanté, ma femme crie quand elle voit une araignée. Mais quand on est épouvanté, vraiment, là, on crie. Et donc, voilà, comment... Donc, les disciples pensent que c'est un fantôme, mais ils ont peur, du coup. Encore une fois, de plus, on voit que les disciples ont peur. Bah, Jésus, comme à son habitude, lui, il dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et je trouve qu'il y a un peu une pointe d'humour dans ces passages, parce que du coup, c'est un petit peu « Comment ne pas avoir peur quand en pleine nuit, une personne arrive en marchant sur l'eau ?» Ou quand pris par les vagues dans une tempête et que le bateau se remplit, on croit qu'on va s'échouer. Ou face à deux démoniaques dangereux. En s'imaginant ces scènes, on peut imaginer la crainte qu'ont eu les disciples. Et j'aimerais faire un focus sur un disciple téméraire, Pierre. Pierre va dire « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Au début, je me suis dit ben, « Si c'est toi, est-ce que ça fait preuve d'un doute ?» Mais non, selon les commentaires que j'ai lus, ici, Pierre ne doute pas, mais il a confiance. Il a foi en Jésus et il fait le pas de foi de sortir de la barque et d'aller rejoindre Jésus sur l'eau. Et donc on voit que, ben, bien sûr, il va marcher sur l'eau. Seulement, Pierre, quand il va constater que le vent est fort, la peur, encore une fois la peur, elle va le saisir et il va s'enfoncer et il criera à Dieu. Il y a ici une importance donnée au regard. Les situations que nous traversons peuvent nous amener à détourner le regard de Jésus. Quand on conduit un véhicule, on dit qu'il faut regarder dans la direction dans laquelle on veut aller, car si on change de notre regard et qu'on regarde par exemple l'obstacle que l'on veut éviter, eh ben on va aller sur cet obstacle. Donc quand on roule, on regarde toujours la direction où on veut aller. J'ai un autre exemple. Quand on marche sur une sangle, par exemple, comme un funambule, on ne regarde pas nos pieds, parce que ça ne sert à rien. Nos pieds, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ce qu'il faut, c'est fixer un point devant soi pour regarder l'horizon et avancer sur cette slackline. Eh bien, de la même manière, si on détourne les regards de Dieu, on n'évitera pas les problèmes dans lesquels on est. Je crois que c'est Jean l'autre jour qui a donné, mais je ne sais plus exactement la phrase, il a dit « Il faut changer nos difficultés en problèmes parce que les problèmes se résoudent. » C'est ça ? Il faut changer nos soucis en problèmes parce que les problèmes ont une solution. Voilà. Et il est important donc justement de savoir vers quoi tourner nos regards. C'est une question de mouvement de tête. Vers Jésus ou vers mon problème ? Vers Jésus ou vers ce qui m'embête ? Vers Jésus ou vers ma difficulté ? C'est un passage intéressant et plein d'enseignements. Pierre croit d'abord, puis chute. Et dans sa détresse, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie à Dieu et une fois de plus, il est sauvé. Dans notre marche, nous ne serons pas infaillibles. Il y aura des doutes, des peurs, des chutes. Mais une chose est sûre, Dieu est là et sera toujours là. Tout est une question de focus. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les situations que l'on traverse, car nous aurons à résoudre les problèmes, mais je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, rien ne nous sera insurmontable. Car avec Dieu, nous sommes inébranlables. Il nous rend capables de traverser n'importe quelle situation et même, je dirais, d'en sortir plus fort que ce qu'on était avant. Et le fait que Pierre marche sur l'eau me montre que Dieu me rend capable d'accomplir les œuvres que lui-même accomplit. Le dernier passage, avant de passer sur le mot, c'est le passage de Matthieu 7, de versets 21 à 29. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, mais elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Alors ce passage, lui, il commence par une mise en garde. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Vous m'excuserez la référence, mais une célèbre pub, le McCain pour des frites, disait « C'est celui qui en parle le moins qui en mange le plus ». Une affirmation plutôt pertinente, car il ne suffit pas de dire et de faire le beau parleur, mais plutôt d'être cohérent entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Méfions-nous de ne pas être des chrétiens d'apparence avec le langage, mais avec les œuvres. Soyons en parole et en acte ce que nous croyons. Fondons notre vie sur le roc. Des fondations solides nous permettront de surmonter les défis. Mon enfance, elle a été marquée par des chants comme celui-ci. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. La pluie tombera et le vent soufflera. La pluie tombera et le vent soufflera. Et ta maison résistera. Des versions qui peuvent être un petit peu divergentes de temps en temps, mais voilà sur quoi ma vie a été bâtie. Je vous invite à bâtir votre vie sur le roc. Mon père est du bâtiment. Si on construit une maison sur des mauvaises fondations et qu'on donne une décennale pour cette maison, eh bien on aura sûrement des problèmes. Bâtissez votre vie sur quelque chose de solide, sur quelque chose sur lequel vous pouvez compter et quelque chose de sûr. La protection divine, elle sera sur vous. Et je vais lire un psaume qui est le psaume 91 et je vais vous demander de repérer le langage de la protection. Tout ce qui fait référence au fait que nous allons être gardés. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge, Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite ? Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lion, sot et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Habiter sous l'abri du Très-Haut, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Refuge, forteresse, bouclier, cuirasse. Est-ce que vous avez déjà vu une poule protéger ses petits ? On est sous le plumage de Dieu comme une poule couvre ses petits. Et je peux vous dire qu'une poule défend ses petits et qu'elle va prendre la pluie à la place de ses petits qui seront au chaud sous ses ailes. Rien à redouter. Si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne craindrai rien, car ses anges nous gardent. J'avais un ami qui ne fermait jamais sa maison, un ami dans l'Est. Et je lui disais, tu fermes pas ta maison, t'as pas peur qu'on te vole, etc. Il me disait, tu vois pas l'ange qui garde la porte ? Et ça m'a beaucoup parlé. Aucun mal ne nous atteindra. Les passages que nous venons de prendre nous montrent la toute-puissance de Dieu et son autorité sur la création. Il nous expose sa capacité à prendre soin de nous et à nous faire traverser les tempêtes. C'est pas... On se confie pas en Dieu parce que, on a une lubie, on est des fous, etc., machin et tout. Si on se confie en Dieu, c'est qu'il y a une assurance dans le nom de Jésus. Il y a autorité et puissance dans le nom de Jésus. Dieu, il propose à celui qui s'attache à lui une protection certaine. En voulant parler d'être attaché à lui, j'avais en image la patelle, vous savez, la bernique, plus communément appelée le chapeau chinois. Ce petit coquillage qu'on voit à la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous aussi, de décoller un coquillage comme ça sur un rocher. C'est impossible. Impossible, sauf bien sûr si on prend un outil adapté et que du coup, on le fait sauter. Est-ce que moi-même, je suis attaché de la même manière au Seigneur ? Est-ce que je suis cramponné à lui ? Est-ce que... Ma question aussi, c'était, à quoi vous-même vous attachez-vous ? Qu'est-ce qui est votre refuge, votre forteresse ? Quel est votre appui dans les difficultés ? Quel est votre refuge dans la détresse ? Tout le monde passe par des épreuves et les chrétiens ne sont pas épargnés. Mais Dieu est toujours un refuge, quelqu'un en qui nous pouvons nous confier, en qui nous pouvons compter. Certains diront qu'au travers des épreuves, ils n'ont pas vu la main de Dieu. Certes, Dieu ne répond pas toujours de la manière dont on aimerait. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec nous dans cette épreuve. Alors cette notion d'épreuve, j'en suis conscient, elle revient régulièrement dans mes partages. Et comme j'avais déjà pu le dire aussi dans une autre prédication, j'ai souvent peur d'être rébarbatif. Mais simplement, je vois autour de moi et j'entends autour de moi tellement de personnes qui passent par l'épreuve que j'aimerais que Dieu, en tout cas que les passages que je vous ai donnés, vous donne le moyen de traverser ces épreuves. S'il y a des personnes aujourd'hui dans la salle qui ne croient pas en Dieu, eh bien, j'aimerais leur dire que même si vous ne croyez pas aujourd'hui et que Dieu est pour vous un Dieu étranger, eh bien, sachez que le jour où vous aurez besoin de lui, le jour où vous vous tournerez vers lui, il sera là. Parce que Dieu est Dieu et il est là dans toutes les situations. Et le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de l'homme qui se refuse de voir Dieu. Et comme les disciples, si un jour vous avez besoin de crier au Seigneur, eh bien, allez réveiller Dieu. Allez réveiller Jésus. Et il sera là, il va vous écouter, il va vous entendre. Le proverbe 1,33 nous dit « Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Et on arrive finalement à ce mot qui a fait ce partage, qui a conduit ce partage, c'est le mot « inébranlable ». Je vais lire le psaume 46. Au chef de chœur des descendants de Corée pour soprano chant. Je ne vais pas vous le faire en chant, mais... Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Aujourd'hui encore, il est temps de s'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu. S'il y a vraiment une chose que j'aimerais que vous reteniez, avec laquelle j'aimerais que vous repartiez ce matin, c'est vraiment le fait que Dieu, qu'avec Dieu, vous serez inébranlable. Est-ce que vous voulez de cette inébranlabilité? Est-ce que vous voulez la vivre? J'ai commencé le partage avec un verset qui nous parlait des pères et des jeunes, et je vais donc finir avec un verset qui parle des pères et des jeunes. Il se trouve dans 1 Pierre, 1 Pierre 5, les versets 1 à 11. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur eux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En effet, il est dit un peu de temps. La vie parfois peut paraître être longue, mais elle est bien peu de temps comparée à la destinée éternelle qui nous attend. Les gens, souvent, ils investissent dans le temps qu'ils ont ici sur terre. Alors que ce qu'on doit regarder, c'est pas le temps qu'on va passer ici sur terre, parce qu'au final, il représente bien peu de temps comparé à l'éternité qui est devant nous. Investissez pour cette éternité, affermissez-vous, perfectionnez-vous, fortifiez-vous avec l'aide de Dieu, et Dieu vous rendra inébranlable. Il n'y a pas de hasard, Dieu met en nous le vouloir et le faire, et votre présence ici, pour moi, elle n'est pas un hasard. Et cette prédication, elle n'est pas un hasard non plus. Je vais vous témoigner deux petites histoires qui confirment. L'autre jour, je parlais avec une sœur, des difficultés, etc. Et elle a utilisé ce mot, inébranlable. Et je sais que les épreuves, elles ne sont pas faciles. Quand on les traverse, des fois, on est convaincu qu'on ne va pas savoir passer à travers. C'est trop dur. Mais sachez que Dieu est avec vous pour traverser cette épreuve. Et oui, même si vous avez des difficultés, même si c'est dur, même si ça va vous coûter des larmes, même si ça va vous coûter de la sueur, des angoisses, etc. Dieu vous fera traverser à travers cette épreuve et vous rendra plus fort. Et il vous donnera la capacité de soutenir quelqu'un d'autre au travers de l'épreuve que vous avez vous-même vécue. Vendredi, j'étais à côté de Jean à la réunion de prière. Et dans sa Bible, il y avait un petit marque-page bleu. Et sur ce marque-page, il était écrit un verset de 1 Corinthiens 15 au verset 58. Et je vais le prendre, du verset 57 à 58. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur à vous partager ce matin. Et vraiment, c'est ce mot spécifique que je voulais que vous reteniez. Soyez inébranlables, parce que nous avons un Dieu de victoire qui nous donne des capacités surhumaine. Il nous donne des possibilités qu'on ne pensait pas avoir. Et nous avons un Dieu de victoire, et même s'il n'empêche pas toutes les épreuves, elles sont aussi faites pour nous faire grandir et pour nous faire rapprocher de lui. Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Faites de Dieu votre refuge, votre forteresse, et vous serez inébranlable. J'espère qu'on le vivra ensemble.